Bienvenue au 12-14 de l'URPS Médecins Libéraux, le rendez-vous de l'organisation des soins en Île-de-France. Une heure d'échange sur les initiatives locales qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, le 12-14 est consacré à la coordination entre la ville et l'hôpital, et plus précisément entre les GHT côté hôpital et les CPTS côté libéral. Pour en parler, cap sur le Val d'Oise. L'URPS médecin a invité le docteur Édouard Deveau, président de la commission médicale d'établissement du GHT Novo, et le docteur Delphine Tortiget, médecin généraliste à la tête de la communauté professionnelle de territoire, ou CPTS de l'axe majeur qui couvre les communes de Cergy, Éragny et Puise-Pontoise. Les échanges sont animés par le docteur Rachida Inaoui-Rosé, rhumatologue à Paris et élue de l'URPS Médecins Libéraux Île-de-France.
Bonjour, donc merci d'être présent à ce podcast 12-14 heures de l'URPS Médecins Libéraux Île-de-France. Je suis le docteur Inaoui, élu URPS Île-de-France. Nous voulions aborder le sujet sur la relation ville-hôpital et essentiellement les clés du succès pour être positif. Ça fait 30 ans que le sujet est abordé, mais l'évolution rapide et récente de la médecine et de sa démographie, avec la perte depuis 2010 en Île-de-France de plus de 3500 médecins libéraux sur 22 000 et 30% de taux de vacances en hospitalier, nous plonge dans un regard autre de cette relation, quel que soit le côté où on se situe. Peu d'indicateurs sont réellement posés et un travail a été réalisé par l'URPS Île-de-France en collaboration avec la FHF sur la relation médecins libéraux et médecins hospitaliers dans deux territoires franciliens afin de faire un état des lieux et de mieux comprendre les leviers à actionner et comment aller vers une amélioration autour de la question du temps médical et de la coordination. Sont présents nos deux collègues qui parleront de cette étude, donc le docteur Édouard Deveau, chef de service de pathologie infectieuse tropicale au CH René Dubost de Pontoise, président de la commission médicale unifiée du groupe hospitalier Nord-Ouest Vexin Val d'Oise Novo, président de la conférence régionale Île-de-France des PCME de centres hospitaliers généraux et président de l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins. Et notre autre collègue, docteur Delphine Tortiget, médecin généraliste, présidente de la CPTS Axe Majeur à Cergy, élue URPS, médecins libéraux Île-de-France. Je vous laisse la parole pour présenter l'étude et en discuter.
Bon, bonjour à tous. Moi, je suis ravi d'être là parce que il me semble que c'est un moment important à sanctuariser parce que depuis très longtemps, en tout cas depuis que j'exerce moi la médecine en milieu hospitalier, j'ai constaté qu'il y avait une sorte de barrière, en tout cas un manque de communication certain entre ce qu'on appelle le domaine de la ville et puis le domaine de l'hôpital. Pour des raisons qui sont probablement, on va dire, assez anciennes et culturelles, qui relèvent probablement de la manière dont est organisée la pédagogie à l'entrée même dans la faculté, puisqu'on y segmente assez étrangement en fait les différentes corporations médicales. Il se trouve qu'effectivement, sur notre territoire, dans le 95, il y a eu un vent de fédération qui s'est organisé et probablement qui a été, catalysé par la période de la crise sanitaire. Et il y a une grande union qui s'est faite entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, mais qui est une union finalement cherchée depuis longtemps et qui repose essentiellement, et ça c'est très important de le rappeler, sur des bases humaines et sur la connaissance mutuelle de chacun, et finalement ce qui permet de vivre ensemble, la confiance. Donc je vais peut-être laisser Delphine faire le complément de cette introduction.
C'est exactement comme ça qu'on s'est passé les choses, c'est-à-dire que c'est une conversation entre Édouard et moi l'hiver 2017-2018 sur exactement ce sujet-là, qui a monté un petit peu notre engagement, de se dire que, alors on se connaissait, mais finalement on manquait un petit peu de lien humain, et c'est la base de tout, hein, et on avait envie de travailler ensemble sur l'amélioration du lien ville-hôpital, mais surtout on avait envie de se connaître physiquement et de partager des moments, alors qui sont quand même professionnels et réguliers, pour que le lien ville-hôpital renaisse un peu de ses cendres, parce qu'il se délitait tout doucement, les gens avaient changé, on est sur une agglomération avec une ville nouvelle sur Cergy, donc ils sont Enfin, il y a eu une installation un peu, tout le monde en même temps, de médecins généralistes. Et puis, ben, il y avait un renouvellement, pas forcément très important, mais et des hospitaliers et de la médecine de ville. Et on avait besoin de se revoir. Et il m'a convaincue. En 5 minutes, c'était fait. Il a trouvé des gens motivés de son côté. J'ai trouvé des gens motivés de mon côté. Et avec un groupe, on a fait naître cette relation ville-hôpital qui est en forme avec, c'est en fait des réunions tous les changements de saison, c'est pour ça qu'on appelle ça les 4 saisons. Et il n'y a pas que les réunions, il y a aussi un annuaire et tout un mode de fonctionnement qui a découlé de ça. Et une fois qu'on a fait ça, on était aussi un bon terreau pour cette crise sanitaire. Et notre exemple a un petit peu s'est étendu sur tout le département à ce moment-là. C'est pour ça que dans votre étude, vous avez quand même des taux de satisfaction de relations ville-hôpital. Évidemment, tout n'est pas rose, hein. On n'a pas tout résolu les problèmes, on n'a pas de baguette magique, mais on est plutôt en phase ascendante.
Merci beaucoup, effectivement, d'insister sur la relation humaine et entre les collègues. Ce qui ressortait justement de l'étude, qui était une enquête quantitative auprès des médecins libéraux et des entretiens avec les médecins hospitaliers, il y avait 2 points clés. L'entrée aux urgences restait quand même un peu compliquée, avec 41 à 50% des admissions qui se faisaient malheureusement via le service d'accueil des urgences pour obtenir une prise en charge plus rapide, surtout sur les plus de 75 ans. Et seulement moins de 20% étaient hospitalisés les hospitaliers considéraient que 20 à 30% d'hospitalisations qui étaient faites pour désengorger les urgences et donc considérées plus ou moins comme pertinentes. Et en ce qui concernait la sortie d'hospitalisation, les médecins libéraux considéraient dans 60% des cas en moyenne, que ce soit sur le territoire nouveau du 95, qui est quand même un territoire plutôt exemplaire en termes de relations ville-hôpital, ou que ce soit sur l'autre territoire dans le 94, de confluence, ils considéraient qu'ils n'étaient pas suffisamment associés à l'organisation de la sortie de leurs patients. Et effectivement, en ce qui concerne la satisfaction des échanges entre les équipes hospitalières et libérales, 58 à 70% des médecins répondaient qu'ils étaient conviés régulièrement à des échanges avec les équipes hospitalières, que ce soit DPC, FMC, 4 saisons, comme vous l'avez précisé Delphine Tortiger, avec une coopération qui reposait essentiellement sur des relations humaines. Mais paradoxalement, ce passage aux urgences et les sorties d'hospitalisation continuent à poser un problème sur des territoires où finalement sont mises en place des actions mais qui semblent largement insuffisantes. Quelles sont vos pistes de réflexion sur ce décalage entre la qualité de vos relations et de ce que vous avez pu mettre sur le territoire, notamment dans 95 où vous êtes exemplaire en quelque sorte, et cette persistance de difficultés sur les entrées et sorties d'hospitalisation? Quelles sont vos réflexions à chacun?
Bon, là, vous touchez un point assez essentiel et qui va au-delà, en fait, de l'expérience du 95. On touche le problème des urgences et le symptôme que représentent les urgences dans la société aujourd'hui, d'une part, et dans l'organisation de notre système de soins, d'autre part. Il se trouve qu'il y a un troisième personnage qu'on n'a pas cité, parce qu'il y a le médecin de ville, le médecin hospitalier, mais il y a le patient. Et le patient, aujourd'hui, il se trouve qu'on lui a donné une offre qui existe depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, qui s'appelle les urgences. Et donc, face à la disponibilité permanente des urgences qui a été revendiquée à l'époque, on a créé quelque chose, en fait, sur lesquels on a du mal à revenir et qui, néanmoins, fait intervenir le sujet de la pertinence, puisque le recours autonome du patient est possible. Si on ajoute à ça qu'il y a une forme de transition épidémiologique, en fait, qui s'est produite ces dernières années, conséquence des succès de la médecine, puisqu'aujourd'hui, quand vous traitez un certain nombre de maladies, vous avez beaucoup de succès thérapeutiques grâce aux innovations technologiques, mais aussi médicamenteuses, thérapeutiques. Il se trouve qu'avant, certaines maladies dont on ne survivait que peu de temps, aujourd'hui, on y survit beaucoup plus longtemps. Et donc, pendant ces phases de maladies chroniques, forcément, les équilibres physiologiques sont déplacés, sont plus précaires. Et donc, le recours à des acteurs en santé pour ces malades chroniques est d'autant plus important. Et il se trouve que la démographie de ces malades ne fait qu'augmenter. Et pour autant, la démographie médicale ne suit pas. Et donc, on se retrouve un petit peu dans la problématique de ces maladies chroniques qui ont besoin que l'organisation en santé soit modifiée et soit centrée sur ce qu'on appelle aujourd'hui tout à fait légitimement le parcours de soins. C'est-à-dire qu'un malade chronique, du moment où il est dépisté comme étant un risque d'une maladie jusqu'au moment où il est dans sa phase la plus compliquée de la maladie, le système de soins n'est pas organisé pour avoir une prise en charge rationnelle. Et donc, c'est toute cette phase de transition qu'on essaye de formaliser. Et on ne peut le faire que si la ville et l'hôpital se parlent. Parce que tout à l'hôpital, ça n'est pas possible. Tout à la ville, ça n'est pas possible. Mais il faut que chacun sache à quel moment il doit intervenir sur un parcours de soins. Et après, restera le sujet de l'éducation populationnelle. Et donc, c'est un petit peu ça notre travail, et c'est ça aujourd'hui qu'on essaye de formaliser. Alors, on essaye d'avoir des réponses les plus immédiates possibles pour qu'on ne soit pas que dans le temps long et qu'on ait aussi des solutions à court terme, mais néanmoins, ce n'est pas si simple que ça. Donc, tout notre groupe s'acharne à faire ce travail-là.
Effectivement, il y a plusieurs problèmes. Alors, on n'a pas réussi, enfin, 2017-2018, hein, c'était il n'y a pas très longtemps, en plus il y a eu la crise sanitaire, ça nous a occupé sur un autre sujet pendant un moment. En fait, le fait qu'on se parle, on a déjà mis en évidence tout ça, l'étude nous le souligne, mais on savait déjà que le retour à domicile était problématique, on essaie d'y travailler, mais c'est pas que du problème médical, donc c'est un problème d'équipe, donc, et de notre côté en ville, et du côté hospitalier, donc il faut du temps pour que ça se mette en place. Et puis, alors, le recours aux urgences, hein, on sait aussi qu'on est dans une agglomération très dense, et il y a des études qui avaient montré que quand c'est proche, les urgences, on aime y aller parce que c'est pratique, la lumière est allumée, on va faire une radio, on va faire une bio, alors que chez le généraliste, probablement qu'on ne va pas faire tout ça. Et ça rassure, parce que c'est pas pertinent, mais ça rassure de pouvoir le faire. Donc, on a des choses un peu particulières en fonction de chaque territoire en France. Si vous avez des urgences assez éloignées de la densité, c'est peut-être pas tout à fait pareil que, ou s'il y en a plusieurs dans l'agglomération un peu dense, que nous, on est vraiment au milieu d'une agglomération très dense, et après, il y a plus rien. Dans le Vexin, il y a plus rien. Pour ce qui est de la pertinence de l'accès à l'hôpital, d'abord, l'hôpital, c'est pas le tout. Hein. La ville, on fait énormément, la plupart des soins, d'abord tous les soins, toutes les maladies, tous les symptômes ne sont pas traités et tout le monde ne consomme pas du soin pour tous les symptômes. Et on se débrouille quand même pas mal sans avoir besoin de l'hôpital. Et tout notre travail... Tout notre travail, c'est de savoir quand recourir correctement à un spécialiste d'organes. On a aussi les spécialistes de ville. Hein, on sait très très bien recourir à eux. Il n'y a pas forcément besoin d'hospitalisation pour tous les patients. Et dans les rares cas où il y a besoin, c'est là tout notre travail d'améliorer le parcours. Évidemment, si le patient il va directement, on n'est pas maître des choses. Donc, comme on n'est pas très très nombreux, qu'il y a quand même sur ma CPTS 1400 personnes qui sont en ALD qui n'ont pas de médecin traitant, j'ai juste derrière Argenteuil, on est les deux gros pôles sur le Val-d'Oise où il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de médecin traitant et qui en auraient besoin, ces gens-là se retrouvent de facto pour n'importe quel problème de santé, qui n'a pas forcément besoin d'un avis hospitalier aux urgences. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et on en parle et on y travaille.
Oui. Donc, pour voilà, très bien. Merci d'avoir insisté justement sur le vieillissement de la population, l'amélioration des thérapeutiques qui permet de vivre plus vieux, mais qui font qu'on se retrouve avec des pathologies chroniques. Les gens n'en meurent plus. On voit très bien les VIH. Moi, je le vois pendant les VIH. Eh ben, ils ont 80, 90 ans maintenant, et il faut qu'on s'en occupe. Et ils ont des maladies chroniques. Dans l'étude, il avait noté que les hospitaliers notaient une asymétrie dans le partage d'informations sur un même patient entre la ville et l'hôpital, avec l'obligation de l'aide de sortie pour les hospitalisations, mais pas de vraie obligation du côté libéral de l'aide d'adressage ou un espace santé numérique qui est encore peu renseigné. Il faut savoir que l'étude, nous l'avions réalisée en février-mars, on va dire mars-avril 2023. Le dossier médical partagé avec l'espace numérique santé avait été ouvert le 1er décembre et donc les premiers remplissages se faisaient tout doucement. Et actuellement, il y a à peu près 11 millions de dossiers médicaux qui ont été ouverts. Est-ce que, de votre part, vous avez noté de chaque côté une progression du partage de l'information, puisque c'était un problème? Et avez-vous aussi connaissance de cotations spécifiques liées à l'adressage ou à l'hospitalisation? Du côté hospitalier et du côté libéral, est-ce que vous avez des possibilités d'avoir une valorisation, d'avoir fait un courrier pour l'adressage, ou une valorisation lorsque vous revoyez le patient en sortie d'hospitalisation? Docteur Deveau?
Moi, je pense que la symétrie, enfin, c'est vraiment le bon mot, elle est égale de chaque côté. Il n'y a pas une véritable asymétrie au sens un fait mieux que l'autre. En fait, ça reboucle un peu avec le sujet du début, qui est la relation humaine. Je crois que les gens ont pris l'habitude de ne pas se parler et de penser que chacun fait quelque chose d'indépendant, mais on est sans arrêt remis en question sur ce problème par le parcours de soins et par justement le phénomène de la maladie chronique. On a besoin de partager les informations, et je crois que finalement, c'est ce qu'on a produit sur ce territoire qui est le meilleur outil. Alors certes, l'hôpital est sanctionné parce qu'il a des obligations réglementaires de faire des lettres de liaison qui doivent être remises. Ça fait partie de nos indicateurs qualité, sécurité des soins. Donc, on est regardé là-dessus par la HAS. Bon, néanmoins, ça fait des années que la HAS nous regarde sur ces sujets. Et pour autant, même si ça avance petit à petit. Il y a encore des services dans la structure où j'exerce qui sont au dossier papier. Donc, vous voyez, on revient de loin. Alors, même, on progresse, certes, mais néanmoins, je pense qu'on a beaucoup plus progressé avec l'outil que sont les quatre saisons et la relation directe qu'ont les médecins, qui se rencontrent régulièrement, qui échangent des 06, et on est dans un mode communicatif qui est beaucoup plus dans son temps et dans le lien direct. Et on parlait tout à l'heure de faits marquants qui montrent une progression. Bah, aujourd'hui, grâce à ces 06, les entrées directes entre la demande d'un médecin généraliste et l'admission directe dans un service sans passer par les urgences sont des marqueurs, des indicateurs de nos progrès de communication. Et ça, on le voit directement chez nous, à l'hôpital, sur notre territoire. Donc ça, c'est très intéressant. Après, le formalisme, moi, j'y suis finalement moins attaché parce que j'estime qu'on doit être dans des marqueurs plus up-to-date.
Delphine. Pour ce qui est des courriers d'adressage, alors je ne connais pas de médecin généraliste qui n'en fait pas, mais voilà, je ne sais pas. Est-ce que peut-être ils ne sont pas parfaitement complets ou voilà, c'est possible qu'il y ait des progrès à faire, évidemment, on est toujours. Mais ils peuvent être perdus parce que c'est du papier. Et donc là, on revient à l'informatique, entre guillemets. Pour l'instant, ça va venir, hein, mais bon, le DMP, c'est pas encore très ergonomique, ni pour eux, parce que visiblement, ils n'y ont pas accès. Hein. Il faut avoir une carte CPS, enfin, c'est pas très facile.
Le DMP, c'est vous, les hospitaliers ou les patients?
Les hospitaliers. Alors, les patients, n'en parlons pas, mais les hospitaliers n'ont pas accès facilement au DMP. Ben,
hein. Une fois qu'il est ouvert, normalement, vous y avez accès.
Nous, c'est automatique.
En fait, c'est automatique.
Oui, on passe
est-ce que vous avez vu une différence dans l'évolution du partage d'informations?
Vous, automatiquement, vous mettez les courriers voilà. dessus, mais est-ce que tu vas regarder quand un patient...
Bah oui, nous, on va regarder.
Et est-ce que vous avez vu une évolution ?
C'est
vrai que c'est récent, parce que ça a commencé, on va dire, en janvier 2023. Oui, on est à 11 millions sur une population générale. Je ne sais pas, dans votre région, si vous avez pu évaluer le pourcentage de DMP qui sont activés, mais il me semblait qu'au niveau de la médecine libérale, ça fluidifiait, notamment, je ne sais pas si vous pouvez le confirmer, Delphine Tortiger, pardon, le retour des courriers, les lettres de liaison, les comptes rendus, vous les avez. Est-ce que vous avez l'impression que ça a fluidifié le partage d'informations ?
En tout cas, il y a un petit peu moins de... Avant, on recevait des courriers papier, il fallait les intégrer. Il y en avait, voilà, je rentrais dans les bureaux des collègues, il y avait 1,50 m de courriers qui n'étaient pas encore rentrés. Là, il n'y a plus de retard, donc les dossiers sont à jour plus.
C'est en temps réel.
Voilà, c'est plus en temps réel et c'est plus simple. Après, pour l'instant, c'est plutôt une sorte de fourre-tout, il faut aller chercher, le titre n'est pas très très bien... voilà, c'est un petit peu chronophage d'aller chercher les comptes rendus et autres. Mais si ça sert. Mais c'est pas de ça vraiment qu'on parle, c'est vraiment l'adressage de là pour une hospitalisation. Souvent c'est fait à la main, je vois pas un urgentiste aller dire mais il est où votre courrier d'adressage ? Il faut qu'il aille dans le DMP. Je suis pas sûre qu'il le fasse.
Parce qu'il y a des plateformes, permettez-moi de parler de la plateforme qui nous concerne pas aujourd'hui, le Direct APHP, où vous déposez directement un compte rendu ou un avis sur Direct APHP. Ils ont mis ça en place. Ça fonctionne, mais comme vous le dites très bien tous les deux, c'est l'humain. Parce qu'ils ont été confrontés sur l'assistance publique, sur le fait qu'il y avait des médecins qui y participaient, qui adhéraient, et d'autres qui disaient c'est pas notre problème, la ville, et du coup, qui n'essayaient pas de répondre. Et du coup, je me posais la question pour vous, est-ce qu'il existe une plateforme sur laquelle vous pouvez déposer juste un avis écrit sans avoir à adresser le patient, ou adresser le patient pour une consultation, ou adresser le patient pour une hospitalisation, ou bien prendre le 06 pour une urgence.
On est plus dans l'humain et on s'appelle.
Et vous appelez.
On s'appelle parce que parfois on résout des problèmes
au téléphone.
Donc,
ce qui a toujours existé, ce qui est déjà la base.
Mais ce qui est formalisé. Et là, pour le coup, on a un des numéros de téléphone directs, on se fait confiance. C'est pas nos 06 personnels, mais on se fait confiance et on peut appeler l'hôpital. Et l'hôpital peut nous appeler aussi pour des sorties d'hospitalisation. On essaie de mettre ça en place, soit nous, soit l'infirmier, soit le pharmacien, parce que c'est l'élément clé qui est nécessaire d'être appelé.
J'ai cru voir sur votre groupe hospitalier qu'il y avait même des lignes dédiées pour des pathologies spécifiques.
Oui.
Quelque chose pour des parcours de soins, ce qui est quand même exceptionnel. Vous pouvez nous en dire un mot pour savoir un petit peu comment ça fonctionne ? Ça peut être une piste de réflexion pour l'amélioration,
docteur Edouard, ça n'est pas propre à l'hôpital.
Oui, ce n'est pas propre.
C'est quelque chose qui est organisé justement avec la médecine de ville.
C'est ça qui est intéressant.
Alors, il y a des choses qu'on a organisées nous-mêmes. Par exemple, le service de médecine interne a organisé un mail qui s'appelle medecineinterne@ghtnovo.fr. Et dedans, en fait, tout médecin spécialiste de ville, généraliste de ville, médecin traitant, peut y mettre une demande relative à un symptôme pour une évaluation par un interniste. Et après, c'est l'interniste qui dit « bon bah, moi, je le vois en consulte, je le mets en hôpital de jour ou je l'hospitalise ». Donc c'est une première forme de réponse et il y a un engagement du service pour que la réponse soit proposée dans les 24 heures.
24 heures. Ils s'y tiennent ? Ils y arrivent ?
Oui, complètement.
C'est incroyable.
Ça marche bien.
Ça marche bien, c'est très bien.
Après, vous avez tout ce qu'on élabore justement avec ces soirées des quatre saisons qui sont, on va dire, un outil de communication et dans lequel on s'efforce justement d'avoir des thématiques de fast formation relative à une filière de soins ou à une spécialité particulière. On pourrait, par exemple, prendre la lithiase rénale. Voilà, quand vous avez une lithiase rénale, un patient présente ça, il va voir son médecin généraliste plutôt que de venir aux urgences. Eh bien, il y a un numéro dédié à la prise en charge de cette pathologie-là. On appelle directement et le rendez-vous est déjà fixé. On sait que la thématique correspond à ça.
Directement avec une neurologue ou un néphrologue ou un médecin interniste, un neurologue.
Voilà. Et donc, vous déclinez ça pour tout un tas de pathologies. En général, ce qu'on fait pendant les soirées des quatre saisons, on fait un petit quiz, on organise un petit quiz qui valide un certain nombre de connaissances mises à jour sur telle thématique. Et à la fin, on dit pour toute problématique de cet ordre-là, veuillez joindre le... Et on donne le numéro de téléphone direct.
Voilà. Alors, c'est peut-être le moment aussi de rappeler que ces soirées de formation, de phase formation, comme on dit, en fait, elles sont très équilibrées. C'est-à-dire que ce n'est pas le spécialiste qui descend de son piédestal et qui vient informer le spécialiste de médecine générale sur sa spécialité à lui. Non, c'est vraiment un binôme. C'est-à-dire qu'on travaille en amont, on prend un généraliste, on prend un spécialiste, ils réfléchissent ensemble comment ils vont faire. Comme ça, le généraliste met en lumière ses problématiques de ville et aussi fait redescendre un petit peu le sujet sur la problématique de ville pour pas qu'on ait des sujets extrêmement rares. Et voilà. Et donc, ce sont des binômes, et ce qui plaît énormément à l'Assemblée qui est là.
C'est du pratique.
Quoi. Oui, c'est très pratique. C'est très pratique. Et comment vous articulez tout ça avec les spécialistes libéraux? Parce qu'il y a probablement des urologues, d'autres spécialistes. Comment vous l'articulez pour la prise en charge? Et comment, d'ailleurs, vous établissez vos relations, que ce soit vous, médecins libéraux, généralistes et autres, et vous, hospitaliers, avec les spécialistes d'organes? Est-ce qu'ils participent à vos quatre saisons? Est-ce qu'il y a une triangulaire ou c'est plutôt, dans votre relation ville-hôpital, c'est très axé médecin généraliste, hospitalier, médecin généraliste? Comment, j'aimerais comprendre comment vous l'articuliez, parce que comme vous êtes très avancé sur votre territoire, sur les relations justement entre collègues et plus particulièrement sur le plan humain, j'imagine que ça a été pensé à un moment donné.
Alors, déjà, on a commencé effectivement avec les relations médecin généraliste tout traitant et les spécialistes d'organes des étages. On a commencé comme ça. Après, il y a eu la crise sanitaire.
Vous voulez dire avec les hospitaliers ?
Avec les hospitaliers. Ensuite, on a, depuis septembre, étendu un peu différemment. C'est-à-dire que c'est les paramédicaux qui se voient... Enfin, il y a une autre soirée. Les paramédicaux avec les paramédicaux de l'hôpital. Et puis, avec les CPTS, on a invité la dernière fois un radiologue aussi de ville. Donc, avec le fait que le CPTS se soit mis en place, j'ai déjà évoqué le fait qu'on fasse des soirées à thème vraiment avec le spécialiste d'organes de ville, de l'hôpital et le médecin généraliste. Mais ça prend du temps, hein, il faut se...
C'est
voilà.
Quelque chose que vous êtes en train de mettre en place.
Exactement.
Pour mettre dans la boucle et faire une triangulaire, parce que je pense que c'est...
Mais aussi avec les urgentistes, par exemple.
Et avec les urgentistes qui sont aussi des spécialistes...
Après, je pense qu'il y a une très forte complémentarité, y compris dans la médecine spécialisée, parce que, en tout cas, l'hôpital Nouveau et le site de Pontoise n'a absolument pas vocation à se substituer à la ville, y compris dans la spécialité. C'est assez complémentaire. Je vais prendre l'exemple d'une spécialité particulière qui est l'ORL. En fait, nos ORL à l'hôpital veulent changer l'intitulé de leur service. Ils veulent plus s'appeler ORL. Ils veulent s'appeler chirurgie maxillofaciale carcinologique. Parce qu'ils vont avoir une mention B3, ils font du lambeau libre. Et donc, ils ne s'occupent absolument pas de l'ORL tout venant. Et voilà. Et donc, ils s'organisent, ils fédèrent absolument de façon très organisée avec l'ORL de ville pour avoir vraiment une complémentarité d'action. Et on a la même chose avec les dermatos. Notre dermatologue, le docteur Bégon, fédère tous les dermatologues du 95. Il a monté un super réseau. Et donc, il n'y a pas de substitution. Et donc, il y a un excellent relais. Il y a même une dermato libérale qui vient travailler en hôpital de jour à nouveau. Donc, on a beaucoup avancé sur ce sujet. Et en fait, l'essence des quatre saisons, ce n'est pas tellement, finalement, la relation entre spécialistes. C'est vraiment la complémentarité et du parcours de soins qu'on veut vraiment lisser pour qu'il n'y ait plus cet obstacle ou cette interface que sont les urgences entre le médecin traitant et le recours hospitalier. Voilà. Nous, on est là pour aider les médecins traitants à un moment du parcours de soins. Et eux, ils sont là pour poser des questions ou faire traiter leurs patients quand ils ont besoin qu'ils soient traités de façon hospitalière. Quoi. En fait, c'est chez eux aussi, l'hôpital.
Oui,
c'est ça qu'on veut avoir.
Ça reste central, effectivement, votre position. Et est-ce que, justement, vous, en tant l'équipe des médecins généralistes de votre territoire, vous avez tendance à, justement, passer par les spécialistes d'organes pour, un, ou éviter une hospitalisation, si ça peut être réglé, ou bien aider, parce que dans certaines circonscriptions, on sait que les médecins spécialistes d'organes travaillent aussi à l'hôpital, ce qui est assez fréquent, ils sont en activité mixte, et ça peut aider à hospitaliser directement. Vous n'avez pas cette expérience?
Alors, on n'a pas travaillé là-dessus, donc je vais donner mon expérience personnelle,
oui.
Pas du tout. Si c'est de l'hospitalier, c'est de l'hospitalier. Si c'est de la ville, c'est de la ville.
C'est de la ville. Point. Il n'y a pas cet intermédiaire par le spécialiste d'organes.
Après, peut-être que peut-être la petite variable qui pourrait être, c'est plutôt l'accès aux soins au niveau social. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui ne peuvent pas accéder à un spécialiste d'organes en ville. Et bon, parfois, on peut solliciter l'hôpital pour ça. Bien que ça... Dans notre région, on a quand même la possibilité de mixer un petit peu, de mieux en mieux. Mais non, la ville, c'est la ville, l'hôpital, c'est l'hôpital. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'on apprend, c'est-à-dire qu'est-ce qui est hospitalier, et c'est rare. C'est pas tous les jours qu'on hospitalise quelqu'un. C'est vraiment assez rare. Enfin, moi, j'en vois quasiment jamais personne aux urgences. C'est extrêmement rare.
Oui, c'est ce que vous disiez, docteur Devaux, dans votre réflexion sur l'étude qu'on avait fait, que finalement, ce qui posait problème, c'était une quantité infime de sorties d'hospitalisation et pas l'ensemble, et plutôt des personnes âgées de plus de 75 ans. C'est ce que j'avais retenu de votre réflexion sur l'étude. Et ça, donc, c'est à ce niveau-là que finalement, vous travaillez le plus pour fluidifier le parcours du patient.
En tout cas, c'est le premier sujet qui a animé nos bureaux de CME communs, parce que les présidents de CPTS du Val-d'Oise sont invités au bureau de la commission médicale d'établissement, justement dans cette logique de limiter les obstacles que sont les interfaces ville-hôpital, tant dans l'entrée que dans la sortie. Et en fait, sur un des premiers bureaux de CME qui a été proposé sur ces thématiques-là, moi, j'allais bêtement partir sur l'entrée, enfin, on va dire d'un point de vue hospitalo-centré, peut-être. Et en fait, un des présidents de CPTS a dit « Mais je pense que le sujet le plus intéressant à traiter en premier serait la sortie. » Parce que, et alors là, il m'a dit quelque chose qui m'a fait tomber de ma chaise, il m'a dit « Vous gardez les malades trop longtemps à l'hôpital. » Et donc, j'ai compris qu'en fait, les médecins libéraux et les médecins traitants de notre territoire voulaient récupérer leurs malades, enfin, du moins, ceux qui étaient en face de moi, et qu'on avait tout intérêt, justement, à travailler en commun sur ce passage de relais pour qu'il se fasse le mieux possible. Parce qu'on sait très bien, et ça, toutes les études le montrent, et depuis très longtemps, qu'une sortie mal préparée, c'est un retour aux urgences dans un délai relativement court. Et donc, c'est ça qu'on veut travailler. Et on a vraiment le terreau idéal dans notre territoire.
Parfait. Justement, par rapport à cette sortie d'hospitalisation, est-ce que, docteur Delphine Tortiger, vous avez connaissance, je vous avais posé la question tout à l'heure, j'ai pas vraiment entendu, de cotations spécifiques? Et est-ce que vous, vos collègues, vous les utilisez ou est-ce que vous vous formez à les utiliser? Est-ce que vous les trouvez pertinentes? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur justement ces cotations?
Alors, bien sûr, on connaît nos cotations et d'ailleurs, on a informé lors de la dernière soirée des quatre saisons les hospitaliers de ces cotations, parce que si il donne un traitement pour 6 mois, à la sortie de l'hospitalisation, le patient ne va pas revenir nous voir. On n'aura pas, du coup, eu le temps de revoir ensemble ce qui s'est passé, peut-être même de leur expliquer qu'ils avaient un rendez-vous. Voilà. Bon, donc, on est quand même aussi là pour gérer la sortie d'hospitalisation. Et donc, ils ont entendu ça, et je pense que ça va un peu mieux se passer aussi pour ça. Bien sûr que les cotations, on les connaît. D'accord. Et sauf que quand on les voit plus de 2 mois après pour certaines pathologies ou plus d'un mois après, ben on peut plus les faire.
Est-ce que vous pouvez nous dire précisément pour une ou deux cotations si vous avez et me dire ce que vous en pensez.
La cotation sur une spéculation un peu complexe, c'est MSH, il me semble, et pour la post-insuffisance cardiaque, c'est MIC.
Oui. Rémunéré à combien?
Alors, c'est 23 euros de plus, il me semble.
En plus de la consultation de base.
De base.
D'accord. Et ça, vous pouvez le faire que dans le mois, les jours qui suivent?
Alors, c'est le mois pour l'insuffisance cardiaque et 2 mois, ou l'inverse, j'ai un trou. Je crois que l'insuffisance cardiaque, ça s'est arrêté augmenté à 2 mois, et c'est 1 mois après une hospitalisation un peu
tout
complexe.
Tout est fait pour qu'effectivement, vous la voyez rapidement après l'hospitalisation.
Après, on peut les revoir, mais si, effectivement, on n'a pas le courrier, ils ont oublié l'ordonnance... Là, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est encore plus complexe parce que là, il faut prendre son téléphone ou aller sur le DMP, et donc toute la complexité. Mais à la rigueur, ça, c'est pas vraiment le sujet. C'est comment ils sont sortis, dans quelles circonstances, est-ce qu'ils ont eu leur rendez-vous après, est-ce qu'ils ont ils savent, ils ont compris qu'ils avaient un rendez-vous d'échographie cardiaque telle date. Est-ce qu'ils ont compris le changement de traitement? Est-ce que maintenant le domicile est adapté? Est-ce que l'infirmière était au courant qu'il est sorti à 19h et que ce soir-là, il n'a pas eu ses médicaments, il n'a pas eu son insuline ou quelque chose parce que la pharmacie s'était fermée? Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées de la ville, donc des infirmières, des pharmaciens. Et des médecins généralistes traitants.
D'accord, très bien. Est-ce que vous avez, là vous nous avez présenté un peu les améliorations en cours et vous avez pointé la difficulté en sachant que l'humain restait vraiment au centre et on le sent bien dans votre discours. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous êtes en train de faire des projets, notamment vous avez parlé de stratification de la prévention, de la responsabilisation des populations, intégrer les patients. Est-ce que vous faites des choses avec les usagers de patients, avec les patients partenaires qui sont très à la mode? Est-ce que c'est des choses qui sont en cours ou c'est des choses qui sur lesquelles vous êtes en train de travailler, que vous allez mettre en place, que ce soit en libéral ou en hospitalier?
Alors, je pense que le sujet majeur sur lequel on va travailler à partir de maintenant, c'est un principe qui porte un nom qui, je sais, a prêté à confusion, mais qui peut mériter quelques mots d'explication. C'est le principe de la responsabilité populationnelle. Alors, j'en profite et je parle sous contrôle d'Isabelle Persec qui est là, qui est notre représentante régionale de la Fédération hospitalière de France. Et il se trouve que c'est un principe qui a été construit et testé dans un certain nombre de territoires à l'initiative de la FHF et qui consiste à justement organiser les acteurs en santé sur la base d'un parcours de soins dans une maladie chronique. Et le parcours exemplaire pour en parler, c'est le diabète, notamment le diabète de type 2, puisque on sait à peu près quelles sont les populations à risque, on connaît toutes les strates de cette maladie et on connaît la façon dont il faut intervenir autour des différentes problématiques et des stades de la maladie, jusqu'à ses complications les plus tardives. Et donc, l'expérimentation a été menée dans 5 territoires initialement, sur le territoire national, et sur la base de rencontres entre les différents acteurs en santé. Alors, tout le monde intervient. Ça va de l'ergothérapeute, l'orthophoniste, l'infirmière libérale, le médecin, les hospitaliers, le podologue, enfin, tout intervenant, les assistantes sociales, tout intervenant dans le parcours de soins est convié. Et en fait, la population est divisée en plusieurs strates. Et donc, là, dans le diabète, la strate 0, c'est la strate, j'ai des facteurs de risque. Et donc, on se centre sur le dépistage. Et on voit bien que ça va appartenir majoritairement à la ville. Mais quand je dis la ville, c'est pas que les médecins libéraux. C'est aussi l'école. Parce qu'à l'école, on apprend à un enfant à la façon de se nourrir et tout ça. Donc, tout intervient. Et puis, petit à petit, comme ça, vous faites des protocoles de prise en charge dans chaque strate. Et donc, dans les strates compliquées, l'hôpital prend sa place au fur et à mesure jusqu'au niveau de l'insuffisance rénale terminale dans le cadre du diabète où il y a l'hémodialyse. Et quand on fait ça, et donc ce sont les expérimentations qui ont été menées par la FHF, quand on fait ça, on aboutit à un effondrement du recours au SAU de la population en question. C'est-à-dire que dans les territoires où ça s'est produit, on a vu à un moment, il n'y a plus de patients diabète de type 2 qui se pointent aux urgences. Tout est organisé.
Spécifiquement pour cette population. Et c'est un retentissement sur l'ensemble de l'activité du SAU.
Exactement.
Alors qu'on est sur une pathologie particulière.
Ouais.
Bonjour, docteur Mriol, président du RPS. Lorsque vous faites cette expérimentation, les patients, vous les screenez à quel rythme? Vous les voyez qu'une seule fois? Vous réunissez tous les professionnels de santé et vous dites, parce que la ressource, c'est compliqué, oui, en ville.
Ah non, pas du tout. C'est les réunions où tous les acteurs sont regroupés sont des réunions d'organisation, de prise en charge et d'intervention sur les parcours de soins. Après, tout se passe au quotidien comme d'habitude dans le cabinet. Mais l'intérêt, c'est d'avoir dit, par exemple, dans la strate 0, voilà les facteurs de risque de développer un diabète de type 2. La mission, c'est de faire tel examen, à telle date, à tel rythme. Et puis, quand on tombe, quand on dépiste, bah, après, on sait ce qu'on a à faire sur le reste du parcours de soins. Quand on a un diabétique de type 2 qui est déjà engagé dans sa maladie, qui a déjà un certain nombre de consultations, de complications, on sait qu'il faut organiser autour de lui une consultation avec le neurologue, une consultation avec le néphrologue, qu'il faut qu'il ait tel médicament, et ainsi de suite.
Mais ça, c'est fait déjà au fil de l'eau par les médecins généralistes ?
Bah, preuve en est que non. En tout cas, ce n'est pas coordonné. Et c'est là tout l'intérêt. C'est pas coordonné sur le plan du territoire. C'est-à-dire que chacun fait les trucs dans son coin, mais globalement, il se passe des événements aigus dans les parcours de soins qui font qu'il y a un recours aux urgences. Et que quand on coordonne la population d'acteurs en santé autour de « on va tous faire comme ça » et les protocoles sont établis de manière commune, ça change quelque chose. Et donc, puisque jusque-là, les organisations en santé ont été assez médiocres sur le parcours de soins, parce que ce n'est pas identifié, en fait, la maladie chronique.
Mais en fait, lorsque vous organisez vos coordinations, en fait, vous prenez une population, celle qui va très bien, qui a des facteurs de risque, nanana, et puis après, de plus en plus grave. Donc, pour chaque strate, vous multipliez les intervenants et les séquences, c'est-à-dire que tu vas pas forcément voir tout de suite le médecin généraliste, mais tu auras un podologue, tu auras quelqu'un. Donc, tu vas voir quelqu'un tous les 15 jours avec votre système-là.
Non.
Donc, forcément, il y aura une alerte plus précoce sur un événement plus indésirable. Et en fait, ça suppose une énorme ressource en face.
Alors, ça n'augmente pas la ressource, le besoin en tout cas en ressources humaines. C'est simplement, justement, que les patients sont mieux dirigés, mieux pris en charge.
Mais l'idée, ce ne serait pas aussi de, finalement, sur un territoire, de dire on ne fait pas de loupé. Tous les patients qui présentent cette pathologie sont screenés.
Bah, c'est
tel que vous le présentez, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est dire, finalement, le diabétique de type 2 qui ne va pas bien, qui est dans son coin, qui n'a pas de médecin traitant, mais comment va-t-on, justement, le screener, savoir qu'il est là dans son coin et qu'il est déjà à un stade 2 ou 3 de la stratification? C'est ça la difficulté. Mais comment vous le voyez avec ce type de programme? Parce que c'est extrêmement intéressant, hein, c'est ambitieux et intéressant, et c'est beaucoup basé sur la prévention en stratification, ce qui se fait dans d'autres pays anglo-saxons, et ça vient du Canada, je crois. Mais comment vous voyez? Parce que l'idée, c'est de dire, sur un territoire, il y a une pathologie qui pose problème. Ça peut être le diabète, l'insuffisance cardiaque, le vieillissement, la précarité, les fractures. Chaque territoire définit la priorité de sa problématique. Et après, vous mettez en place, effectivement, avec une coordination des programmes, à différents niveaux de stratification, en collaboration avec la ville, l'hôpital, pour que ça ne vienne pas que d'un côté. Et ensuite, comment faites-vous pour mettre toute cette population qui a été... Déjà, comment l'identifiez-vous et comment vous faites pour la ramener dans ce niveau de stratification pour les voir? Si on a déjà un problème d'accès, même aux médecins traitants, vous disiez il y a
1400
ALD Delphine Tortiger, vous disiez, sur votre territoire, qui sont encore en recherche de médecins traitants, mais qui ont peut-être déjà, qui sont peut-être pris en charge aussi à l'hôpital. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, moi, j'ai cette impression que nos sociétés savantes, elles ont déjà décidé qu'est-ce qu'on fait à quel moment. Et moi, j'ai cette impression de le faire. Bon, alors après, c'est sûr qu'il faut que tout le monde le fasse correctement. Pour moi, les décisions, elles sont déjà prises. On sait déjà comment on doit faire du dépistage, comment on doit, enfin, en tout cas pour le diabète. Les envoyer chez le podologue tous les ans, chez le dentiste tous les ans, l'ophtalmo tous les 1-2 ans. Enfin, il y a déjà. De notre point de vue, une fois que le. Enfin, peut-être pas sur le l'épistage, parce que si les gens viennent pas nous voir, ça, je peux pas le faire. Mais après, c'est très ambitieux parce que les 1400 personnes qui sont sans médecin traitant en ALD, je ne sais pas si elles sont diabétiques et je ne pourrais pas le savoir parce que c'est une information qu'on n'a pas le droit d'avoir. Je ne sais même pas qui c'est. Voilà, il y a que la caisse d'assurance maladie qui peut rentrer dans le jeu. Au niveau des CPTS, on fait ce genre d'action, alors sur un sujet différent du diabète. Là, nous, on est sur le développement, les troubles du neurodéveloppement chez les petits, les tout petits, les 0-3 ans, pour pouvoir progresser au fur et à mesure. Après, chacun fait comme il veut, mais effectivement, c'est important qu'on fasse tous la même chose. Sur le diabète, c'est quand même quand même un des exemples qui est le plus structuré, je trouve, déjà. Mais c'est vrai, pour d'autres pathologies, il faut le faire. De toute façon, il faut se parler, c'est le plus important. C'est de décider ensemble ce qu'on va faire.
Du coup, ça, c'est la piste d'amélioration sur laquelle on va...
Mais il y a une chose qui est importante, c'est que en France, je ne sais pas pour quelle raison, on n'utilise pas les outils de santé publique. On ne fait pas d'épidémiologie correcte. La preuve, personne n'a vu l'inadéquation qu'il y allait avoir entre les acteurs en santé nécessaires et l'impact des maladies chroniques sur les besoins en santé. Personne n'a vu ça, parce qu'on ne regarde pas les données de santé publique. Et donc, dans un territoire, la prévalence, par exemple, de la psychose, c'est 1%. Donc moi, je sais combien il y a de schizophrènes sur mon territoire. C'est 1 200 000 habitants, le Val-d'Oise. Bon, c'est facile de faire le rapport. Donc, si on a une file active qui ne correspond pas au 1%, c'est qu'il y en a qui ne sont pas pris en charge. Donc, le diabète de type 2, c'est pareil. On est capable de mesurer, on sait combien il y a de personnes diabétiques ou à risque de développer un diabète. Ces gens-là, il faut aller les chercher. Parce que ce n'est pas quand ils vont arriver avec une HbA1c ou une première crise d'acidocétose ou une HbA1c très élevée qu'il faut les prendre en charge. C'est déjà trop tard. Donc, c'est tout l'esprit de prendre en charge la maladie chronique, c'est d'arriver à intégrer les données de santé publique et d'être prospectif sur son territoire. Et là, c'est un effort et c'est organiser le système de soins, en fait. Et je dirais même, c'est plus le bon mot, le système de soins, puisque le soin, c'est déjà quand il se passe un problème, c'est d'organiser le système de santé. Et la dimension préventive, elle est fondamentale et elle appartient, alors là, pour le coup, à tout le monde, y compris à l'école. Et je pense que le dépistage, il peut commencer à l'école avec les infirmières. C'est tout bête, hein, mais...
Merci beaucoup pour vos interventions. Je vais passer la parole à la salle, si vous avez des questions ou des réflexions, les uns ou les autres.
Juste avant, pardon, on avait un outil, je dis on avait parce que j'ai l'impression que ça va péricliter, on avait Azalé, l'association Azalé,
oui,
pour la ville.
Pour le diabète.
Pour tout, pour plein de choses, et qui, ben voilà, probablement, va y avoir un désinvestissement visiblement important de la caisse d'assurance maladie sur cette association. Et les infirmières Azalé étaient très, très intéressantes. Et il y a, voilà, le financement devient problématique, visiblement.
On sait pourquoi ? Vous avez une idée ? Ou c'est pas le sujet
c'est un sujet actuel, où la caisse d'assurance maladie dit qu'elle va soutenir et finalement, financièrement, c'est plus complexe que ça.
C'est le paradoxe.
Ouais, un paradoxe.
Oui, bonjour, Bruno Sautron, je suis généraliste libéral dans le 14e. Vos réflexions m'interrogent sur un certain nombre de points. Donc, je voulais savoir déjà, parce que vous parliez d'un désir commun de travailler ensemble, donc ça c'est... très intéressant, mais je voulais savoir si ça avait été un peu formalisé, ces réunions, est-ce que c'était quelque chose qui était sur la base du volontariat, ou si il y avait une reconnaissance, notamment financière, pour les libéraux qui venaient à ces soirées. Deuxièmement, quels étaient les outils que vous aviez mis en place, vous parliez d'un annuaire, est-ce que c'est un annuaire papier, est-ce que c'est une application, est-ce que ça permet aux libéraux d'avoir accès aux coordonnées des spécialistes, mais est-ce que vous avez pensé aussi à avoir un annuaire qui va un peu dans l'autre sens, quoi, c'est-à-dire qui permet aux hospitaliers d'avoir les coordonnées des libéraux. C'est quand même assez souvent confronté au fait qu'à l'hôpital, pour les sorties problématiques, les médecins sont généralistes libéraux sont rarement joints, en tout cas sur mon territoire. Après, sur la médecine de parcours, je trouve que c'est extrêmement intéressant de commencer à regarder dans ce sens-là. Mais est-ce que là aussi, il y a des outils qui sont mis en place? Parce que, notamment avec les outils informatiques, on pourrait dire, tel patient, il est à tel stade de la maladie, donc il doit avoir effectivement toutes les coordonnées des différents spécialistes qu'il va avoir. Est-ce qu'il y aurait moyen de formaliser un peu ça en disant, il a vu le néphrologue, l'ophtalmo, le pédicure, il n'a pas fait son HbA1c, qui permettrait d'avoir un peu une vision d'ensemble, et savoir où en est chaque patient à un instant T. Et puis, dernière chose qui n'a pas été abordée, ça c'est un peu un gros mot, vous avez parlé de responsabilité populationnelle, mais on commence à parler de plus en plus de territorialité, pardon, et la mise en place de CTS. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure votre expérimentation pourrait s'intégrer après sur ces nouvelles structures. Voilà.
Ça fait beaucoup de questions.
La première question, c'est on n'est pas une, enfin, les quatre saisons, c'est un comité. On est bénévole et les médecins généralistes et les spécialistes qui viennent à soirée viennent sans rémunération. On n'associe plus l'industrie pharmaceutique à nos soirées, puisque c'était un désir surtout de la jeune génération. On avait fait une enquête, même une thèse là-dessus. Et donc là, c'est donc un mini buffet offert par la MSASF cette année. Voilà, donc c'est plus l'industrie pharmaceutique. Mais on va peut-être revoir un petit peu la copie pour que les CPTS puissent partager, enfin mettre un petit peu de sous sur le petit repas, parce que quand même c'est tard le soir, et donc on termine, voilà, tu connais la chanson, on termine la consultation ou la journée de travail, et puis on enchaîne sur la soirée, qui des fois est un peu longue, on essaie de la raccourcir.
Ce qui est intéressant, c'est que on est un comité paritaire d'organisation. Il y a 3 médecins libéraux et 3 médecins hospitaliers. Moi, j'ai à un moment cru, parce que ça a démarré en 2018, on le fait 4 fois par an, j'ai longtemps cru que le modèle allait s'essouffler. Et que donc, je disais aux collègues, bon, il faut qu'on trouve la manière de se renouveler. On sépare en deux cette soirée, on fait, on va dire, les 50% de 20h30 jusqu'à 21h30, ça va être des infos. Donc, qui s'est installé sur le territoire, un nouveau médecin hospitalier, une redéfinition d'activité d'un service, une CPTS qui ouvre, ou, je sais pas, une assos qui fait du soin de cancer, qui vient nous présenter son action, et ainsi de suite. Et puis, on fait une deuxième partie où on organise 3 à 4 quiz sur un temps très court. C'est 10 minutes de présentation ponctuées de petits QCM, mais ludiques. Hein. On a par exemple un dermato qui fait visage rouge. Et donc, il présente 10 visages rouges, 10 diagnostics, et il faut mettre en face le diagnostic avec... voilà. C'est pas du tout du fondamental chiant. Donc, c'est plutôt sympa. Et ce modèle, en fait, ne s'est pas essoufflé. Et il faut voir que les soirées comptent 70 à 90 personnes. Donc, les gens y trouvent un intérêt. Et en fait, c'est un point de rencontre maintenant. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que les gens ont envie de venir. Et ils ont envie de venir parce qu'ils ont envie d'échanger. Et ça rigole. Enfin, c'est vraiment sympa hein, comme soirée. Hein.
Et donc, la parole est libre. C'est-à-dire que si on nous dit alors on va fonctionner comme ça et que la salle dit non mais n'importe quoi, vous vous rendez pas compte. Et alors là, il n'y a pas de problème. Hein. On
explique. Démocratique.
C'est très démocratique. C'est pour ça qu'on mange un petit peu, parce que tout ce moment-là, on met notre nom on a une petite étiquette avec son nom, et comme ça, on peut échanger avec ah mais c'est toi, on connaissait la voix, c'était comme ça. Et on discute ensemble et on se connaît. Donc il y a toute une partie, c'est pour ça que le petit buffet est important. On a demandé des fonds à l'ARS, mais on n'a pas eu de fonds. Ça ne rentrait pas dans les cases. Voilà. Et pourtant, Amélie Verdier est venue à une de nos soirées, elle trouvait ça très très bien, mais quand ça ne rentre pas dans les cases, ça ne rentre pas dans les cases. Donc voilà, donc c'est pour l'instant bénévole et ça marche. Il n'y a pas de raison particulière que ça ne marche pas. Après, il y avait d'autres questions sur... Ah oui, l'annuaire est papier, parce qu'on a cherché à faire des applis, puis c'est compliqué, et puis ça faisait une appli en plus, et donc pour l'instant, on est resté sur le papier. L'hôpital l'envoie, on le distribue aux soirées, et puis il y a un accès aussi sur le site internet qui est de l'hôpital. Et moi, sur la CPTS, je le redistribue aussi. Et on le renouvelle. Alors, au début, c'était juste une page recto verso, puis maintenant, les 4 pages, ça devient compliqué. Donc, on ne sait pas comment on va faire, parce qu'on a commencé petit, puis on rajoute des filières au fur et à mesure. Donc, les applis, pour l'instant, non.
Et on a tous vos 06.
Et les 06, ça, c'est une action des CPTS. Alors, ce n'est pas très facile, parce que il faut que tout le monde l'ait. Et donc, pour l'instant, c'est... voilà. Normalement, l'hôpital a nos 06, mais il faut que la personne qui en ait besoin sache où aller la chercher. Parce qu'évidemment, on ne le met pas affiché au mur dans tous les services. Mais ça va s'organiser.
Merci. Une autre question dans...
Oui, bonjour, je suis Caroline Marquis, je suis médecin gériatre installée en libéral. Alors, je rebondis juste sur la maladie chronique. Quand il n'y en a qu'une, c'est simple. Quand il y en a plusieurs, c'est beaucoup plus compliqué.
Bah, chez vous, il y en a beaucoup.
Pardon ?
Chez vous, il y en a beaucoup. En général, les malades en ont plus qu'une.
Si on regarde les outils statistiques, on peut aussi faire des calculs assez simples et voir que on va vers un mur, comme ça. Mais bon, on ne va pas refaire le monde. Je voudrais voir l'articulation exacte avec la CPTS. Donc, quel rôle j'ai pas retenu. Vous avez quel rôle exactement sur la CPTS ?
Je suis la présidente.
C'est ça. Donc, en fait, vous avez intégré la CPTS sur votre fonctionnement ville-hôpital. C'était simple. Et les réunions, vous les faites où ?
Les réunions de...
Les réunions saisonnières.
On les fait à l'hôpital, puisqu'il y a une salle. Ouais. C'est vrai que la salle, elle est ce qu'elle est, on ne pourra pas faire 200 personnes,
oui,
hein, c'est
non,
sûr.
Non, mais c'est super. Mm-hmm. Qui tient à jour l'annuaire ?
En fait, c'est la direction de la communication de l'hosto.
Ouais, puisque à chaque fois, en
prêté
fait, à chaque 4 saisons, on rajoute des numéros, fait travailler. Mais... Et donc, du coup, ils mettent à jour au fur et à mesure.
Pour avoir travaillé sur une expérimentation sur un territoire dans le 18e à Paris, en fait, la tenue de la mise à jour de ce genre d'outils, c'est extrêmement compliqué. Parce que les gens partent à la retraite, il y en a beaucoup en médecine générale.
Là,
et ça demande d'avoir du temps. De toute façon, il y a deux mots-clés, hein, c'est la coordination, donc en gériatrie, on la connaît par cœur, et le temps. Et par exemple, si on revient sur le MSH en sortie d'hospitalisation, je pense pas que les gens prennent un temps plus long de consultation, alors que ça prend du temps de faire ça.
Vous en savez rien. Mais si, on prend plus de temps, bien sûr. Il faut refaire toute l'ordonnance et lire la consultation.
D'où l'intérêt de la consultation améliorée, entre guillemets, la cotation.
Oui. Aussi. Mais en fait, c'est un packaging parce que peut-être que là, on va intégrer la chose et puis on dira, attendez, on va se revoir dans parce qu'il faut refaire. Et en fait, on va prendre deux fois du temps.
C'est ça.
Donc, la médecine générale traitante, c'est une globalité hein, encore. Et parfois, tout est géré et tout est bien et il n'y a rien à faire. Bon, si on peut le coter quand même. On le cote. Pourquoi ? Parce que peut-être que dans 3 mois, en fait, tout ce qui a été changé, il faut tout rechanger. Enfin, voilà. Quelqu'un qui sort d'hospitalisation de diabète, c'est toujours génial. Hein. À l'hôpital, il mange toujours super bien. Il sort, tout va bien. 2 mois plus tard, c'est la cata. Donc, et 2 mois plus tard, on ne peut pas le coter. Et on reprend tout. Et on, voilà. Donc non, si, on prend plus de temps pour les gens. Et d'ailleurs, tout le monde se plaint de ça. C'est-à-dire que tous les médecins généralistes traitants disent que c'est de plus en plus complexe. Alors la population la moins malade râle quand ils vont chez généraliste, on ressort avec un Doliprane. Mais ce n'est pas eux la cible de la médecine générale traitante. Alors si aussi, parce qu'il y a un peu de prévention, ils ne se rendent même pas compte en fait, qu'on fait de la prévention en très peu de temps parce qu'on a le cerveau qui marche à 100 à l'heure. Tout le monde fait ça. Hein. Tous les professionnels... Même hors médecine, du moment qu'on est professionnel, ça va très très vite dans notre tête. Un garagiste, il regarde le moteur et autres. En 5 minutes, il a fait son plan de réparation. Il n'a pas besoin d'y passer 3 heures. C'est pareil. Nous, c'est exactement pareil. Ça va très très vite dans notre tête.
Moi, je ne sais pas faire.
Nous, on est obligés. On est obligés parce qu'il y a 1400 personnes qui attendent à la porte. Et donc, on est obligés. Donc, on a des fois l'impression qu'on va vite. Alors, moi, je ne veux pas très très vite, mais je fais beaucoup de choses. Énormément de choses. Oui. Et je vérifie qu'ils ont bien fait le HBRC, qu'il a fait son fond d'œil, qu'il est allé chez le podologue, qu'il est allé chez le néphro s'il y avait besoin. Je vérifie tout ça.
Est-ce que vous avez un parcours personne âgée ? Parce qu'on a parlé de territoire et de population. J'ai travaillé longtemps à l'hôpital. J'ai essayé de me rapprocher des MSP, des maisons de santé pluripro, qui sont très tournées gynéco et peu du tout personnes âgées. Hein. Il n'y a pas de gériatre. Ça balbutie sur certains territoires. À chaque fois, on me répond, mais non, mais le diagnostic, il est territorial, il est territorial, il est territorial et jamais populationnel. Alors, populationnel, en diabéto, ils ont toujours été en avance sur tout, hein, en éducation thérapeutique, etc. Mais je suis quand même très étonnée que sur la population âgée et le travailler ensemble ne se fasse pas. Pourquoi
Encore une histoire d'être humain. Quand l'équipe de gériatrie ne fonctionne pas bien, ça ne peut pas fonctionner. Si la ville ne se parle pas ensemble, ça ne fonctionne pas. Là, maintenant, il y a les DAC. Si le DAC, c'est juste un numéro et qu'il ne se passe rien, il ne se passe rien pour la gériatrie. Là, c'est nous, on est en train de renaître là-dessus. En plus, on est une agglomération qui était assez jeune. Et puis, la force des choses, au bout d'un moment, on est un peu moins jeune. Donc, on est en train de refonctionner un petit peu mieux là-dessus. On a un numéro unique pour la gériatrie. Donc, moi, j'utilise souvent pour rien qu'avoir des avis.
Hospitalier. Alors oui, la notion de filière et de filière courte, elle existe depuis
Nombreuses on années. On a aussi, il y a des gériatres qui sont hors l'hôpital, pas de ville, mais qui sont dans des structures. Il y a le DAC, oui, on essaie d'anticiper les choses en amont.
Il n'y a pas un parcours spécifique porté par la CPTS, c'était ça ma question.
On a le maintien à domicile dans nos missions.
Et vous le faites en lien avec les DAC, justement?
Oui, d'accord. Le DAC fait partie de la CPTS.
Il y a une place importante des DAC dans cette relation ville-hôpital. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci aussi à Isabelle Perset d'être présente ici, représentante de la FHF. Je vais, comme on arrive au terme de cette réunion, conclure. Le monde a changé et change, et tant mieux, car cela nous facilite notre exercice au quotidien grâce à la technologie, aux avancées thérapeutiques, au numérique, aux systèmes d'information qui nous permettent d'aller plus vite et plus loin. On a tous connaissance actuellement de patients qui ont des cancers avec des chimios péroses qui vivent normalement, de la chirurgie ambulatoire, la robotique, les biothérapies qui ont transformé le pronostic et la vie, la qualité de vie de nos patients rhumatismaux et autres pathologies chroniques. Cette relation ville-hôpital ne peut pas rester figée dans l'ancien monde, c'est ce qu'on vient de voir, avec des vieux schémas de croyances dépassées et de conflits obsolètes qu'on doit tous dépasser. À nous tous, chaque médecin, et plus particulièrement les jeunes qui arrivent, de nous rapprocher presque individuellement des autres collègues pour ne pas rater le virage et permettre de garder l'humain au premier plan, ce qui nous permet en même temps d'éviter l'isolement et le désarroi et tout ce qu'on a mis derrière le burn-out. Face à la montée en puissance du système d'information, du numérique, de l'intelligence artificielle, qui vont nous aider, mais qui ne doivent pas nous remplacer, mais nous aider dans nos pratiques. Mais ensemble, libéraux hospitaliers, une fois nos préjugés et nos peurs dépassés, une vraie solidarité et collaboration ville-hôpital nous rendra plus forts et moins seuls, plus efficients dans notre travail, plus heureux dans l'intérêt de nos patients. La collaboration URPS Île-de-France Médecins avec la FH chef s'engage à poursuivre les travaux sur la relation ville-hôpital pour aller plus loin en termes de prévention, notamment ce qui a été évoqué par le docteur Édouard Deveau, et je remercie Madame Isabelle Perseig d'être présente. L'URPS, via cette collaboration, fait preuve d'exemplarité dans la volonté d'aller plus loin dans l'amélioration de la relation ville-hôpital et aussi avec nos collègues hospitaliers privés libéraux. Merci d'avoir participé à ce podcast.
Merci. Merci à nos invités et au public pour ces échanges autour de la coordination ville-hôpital. L'URPS Médecins Libéraux Île-de-France vous donne rendez-vous pour son prochain 12-14 qui sera consacré au bilan du SAS, le service d'accès aux soins.